Bien, bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs donc, du printemps du réseau des ESPE, Dominique Berger et Brigitte Marin, de nous avoir invités, François Louveau et moi, à vous présenter donc, la création des instituts Carnot de l'éducation, qui sont un partenariat entre recherche et monde de l'éducation. Enfin, plus précisément, qui se veulent être un partenariat entre recherche et monde de l'éducation. Alors, je bénéficie donc d'une mission de la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et puis du secrétariat d'État donc, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, donc respectivement Najat Vallaud-Belkacem et Thierry Mandon. Mais le ministère de l'Agriculture a voulu aussi s'associer à l'expérimentation, et c'est pourquoi vous verrez qu'il y a certains laboratoires, par exemple, qui concernent plus directement les problèmes de l'agriculture. Alors, quelles étaient les missions, les éléments de mission qui m'ont été confiés? La première, donc, c'est de décrire le concept de l'Institut Carnot d'éducation. La deuxième, c'est de faire une expérimentation d'un pilote, d'un démonstrateur sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est aussi de définir les modalités d'un essaimage national, donc une extension au plan national, en lien avec la réflexion du futur plan d'investissement d'avenir, numéro 3, du commissariat général à l'investissement. Enfin, tous les niveaux de formation sont concernés, depuis la maternelle jusqu'au supérieur. Toutes les disciplines scientifiques intervenant sur les questions de l'éducation sont mobilisées. Enfin, je voudrais préciser et remercier que la mission est accueillie donc au sein du département Institut français de l'éducation de l'École nationale supérieure de Lyon par le biais d'une convention avec l'Université de Lyon. Alors, ce travail, d'abord la première partie qui concerne donc la déclinaison du concept d'Institut Carnot d'éducation, a commencé bien avant la mission officielle qui m'a été confiée le 23 octobre, puisque nous avons travaillé avec ce qu'on appelle maintenant une équipe nationale, qui était composée donc de François Louveau, de Marie-Claude Panlou, qui je crois est dans la salle, et puis de Sophie Fermigier. Donc nous avons essayé ensemble de définir ce que pourraient être les instituts Carnot de l'éducation. Alors ceci part d'un constat, c'est-à-dire que le constat est le suivant. Il semble bien qu'il y ait une insuffisance de relations structurées entre recherche et éducation. Et puis, il existe bien sûr des expériences qui sont particulièrement intéressantes, mais quand on veut les essaimer, les transposer à d'autres composantes du système éducatif, il semblerait qu'il y ait un certain nombre de problèmes. Et moi qui ne suis pas un spécialiste des sciences sur l'éducation, je suis un spécialiste de sciences des matériaux. Quand j'ai abordé ces questions, j'ai tout de suite vu qu'il y avait une singularité du système éducatif par rapport, par exemple, au champ de l'économie, où là, il y a entre le monde de la recherche académique et les entreprises de très nombreuses structures de coopération, d'échange et de dialogue. Ce sont, par exemple, les instituts Carnot qui concerne donc la relation entreprise-laboratoire de recherche de l'université et des grandes écoles, dont s'est inspiré d'ailleurs par un transfert de concept, j'y reviendrai tout à l'heure, donc les instituts Carnot d'éducation. Ce sont les pôles de compétitivité, ce sont les instituts de recherche technologique, et puis ce sont des structures de transfert qui existent en très grand nombre. Et il y en a une qui est particulièrement efficace, c'est la structure de transfert du CEA, qu'on appelle le CEA-TECH, et qui a pour mission de faire le lien entre le monde de la recherche académique et, d'autre part, les PME-PMI, où il n'y a pas de ressources humaines capables de bien discuter, bien assurer l'échange avec le monde économique. Et puis, il y a le domaine de la santé. Vous le savez bien, il y a la recherche clinique, il y a aussi la recherche translationnelle, qui part de recherches fondamentales dans le domaine de la biologie et qui va jusqu'aux patients. Et il n'y a pas d'équivalent systématique structuré dans le système éducatif. D'ailleurs, ce problème est un problème général aux sciences humaines et sociales, puisque dans son récent rapport, l'Alliance donc Athéna a souligné que dans le domaine des sciences humaines et sociales, il y avait un problème de transfert de ces résultats vers la société de manière générale. Alors, que sont donc les instituts Carnot d'éducation? C'est une structure de dialogue, d'échange, d'élaboration, de projets partagés entre enseignants et chercheurs. Et ceci correspond à une double volonté. D'abord, la volonté des chercheurs de transférer le résultat de recherche, et de développer des recherches dites impliquées, c'est-à-dire qui prennent en compte des questions, des problèmes que se posent les enseignants et qui, aujourd'hui, dans la discipline, dans une des disciplines considérées, sont mal renseignés par la recherche. C'est aussi la volonté, bien sûr, des enseignants de dialoguer directement avec les chercheurs pour améliorer la réussite scolaire, de manière générale, ce qu'on pourrait dire autrement, innover. Et il peut y avoir différents types d'innovations, selon le degré d'amélioration. Ça peut être du pas à pas, ou ça peut être des améliorations, des innovations qui peuvent être plus de rupture, etc. Eh bien, les instituts Carnot de l'éducation sont un transfert du concept des instituts Carnot d'entreprise, qui, là, relient surtout les grands groupes industriels avec le monde académique. Mais nous l'avons évidemment adapté à l'éducation. Et pour faire bonne mesure, nous sommes en train de faire un benchmark international pour voir dans le monde qu'est-ce qui existe comme dispositif qui ressemble un peu à ça, qui pourrait beaucoup nous inspirer. Et c'est la raison pour laquelle il y a un postdoc qui vient de démarrer il y a un mois et qui fait le tour un peu des sites dans le monde pour essayer de voir ce qui se passe donc dans ce domaine. Alors quelles sont maintenant les trois missions des instituts Carnot d'éducation? Il y en a trois. La première, c'est innover dans l'éducation par utilisation des résultats de recherche selon une démarche bottom-up. Et j'insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que l'on part des questions, des problèmes, des interrogations, des doutes, des incertitudes, mais aussi des envies que peuvent avoir les enseignants pour améliorer leur pratique pédagogique. C'est donc la démarche bottom-up. Ça part de là. Et j'ai eu une expérience également en tant que vice-président enseignement supérieur et recherche au niveau de la région Rhône-Alpes. J'ai beaucoup travaillé sur ces questions d'innovation et je sais par expérience que dans le domaine du champ économique, par exemple, une innovation ne marche que si on part des besoins, disons, du terrain. C'est fondamental. La deuxième, c'était susciter au sein des unités de recherche des activités sur des questions qui sont aujourd'hui mal renseignées par la recherche et qui constituent au fond de véritables verrous pour les questions d'innovation. C'est enfin assurer une large diffusion des travaux des instituts Carnot d'éducation en s'appuyant notamment sur les SP. Viser la formation initiale, bien sûr, mais aussi la formation continuée et enfin la formation continue. Et là, il y a une différence assez importante avec les instituts Carnot traditionnels, c'est cette question de diffusion. Dans les instituts Carnot, quand on a des relations avec les grands groupes, il n'est pas étonnant, parfois, qu'il y ait des clauses de confidentialité. Donc il ne s'agit pas de diffuser, mais au contraire de garder pour soi, pour se développer, pour être compétitif, etc. Bon. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on veut que tous les travaux soient largement diffusés. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être, nous allons changer de nom et les appeler, peut-être, les instituts Condorcet de l'éducation. Et un avantage, c'est que c'est le même sigle lycée. Hein, donc ça serait assez facile. Il n'y aurait pas besoin de refaire des sigles, etc. Mais enfin, c'est une question que je traiterai sans doute dans mon rapport que je dois remettre à la ministre, aux deux ministres, à la fin du mois de juillet. Alors, quelle est la spécificité des IC? Je l'ai dit, la démarche bottom-up, toutes les disciplines qui sont concernées, mais je voudrais insister sur un point particulier. C'est l'existence d'une structure d'interface qui est constituée de passeurs, de facilitateurs, c'est-à-dire des personnes qui ont une double compétence, une connaissance approfondie du système éducatif et une connaissance non moins approfondie du domaine de la recherche. Ce n'est pas évident à trouver pour l'instant. Et leur mission, c'est quoi? C'est de favoriser justement les échanges, permettre de faire en sorte que deux mondes qui se connaissent assez mal puissent se rencontrer, échanger. C'est inciter à monter des projets communs et c'est aider aussi à construire des projets, etc. Donc c'est ça la caractéristique principale des instituts Carnot d'éducation, la spécificité, c'est la structure de passeurs. Alors, quelles sont les disciplines mobilisées? Bon, comme je ne suis pas un spécialiste de ce domaine, donc j'ai fait appel à des compétences qui existent, par exemple Olivier Rey ou d'autres, bon, etc., qui m'ont fait cette liste. Alors, évidemment, c'est une liste, elle n'est sans doute pas exhaustive, elle est sans doute mal classée, mais bon, ça vous donne une idée de toutes les disciplines qui peuvent être, disons, mobilisées dans ce projet. Et j'en viens maintenant à l'expérimentation que nous avons faite en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle va se dérouler, elle se déroule en trois étapes. Ne faites pas attention au calendrier qui est mis sur ce schéma. Les résultats récents et surtout l'ampleur des résultats que nous avons eus font qu'on est obligé de décaler dans le temps vers sans doute un peu plus tard que, par exemple, la deuxième phase, hein, plutôt mai que... Bon, peu importe. Donc, trois phases. La première, c'était préparer l'expérimentation. Là, nous avons, avec François notamment, avec Sophie Fermigier, etc., avec Claude Fabre, qui maintenant nous accompagne au niveau de la DGCIP, eh bien, nous avons donc beaucoup rencontré à la fois des chercheurs, des universitaires, des responsables universitaires, des recteurs, des rectrices, pardon, des doyens d'inspection, de corps d'inspection, etc., etc. Bon. Et nous leur avons expliqué ce que nous voulions faire pour les sensibiliser, disons, à cette affaire. Ensuite, de début janvier à mai-avril, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt, dont le principal objectif était de choisir les membres partenaires qui vont appartenir au futur réseau Institut Carnot d'éducation, c'est-à-dire les équipes pédagogiques, mais aussi les équipes de chercheurs, et qui vont ensuite travailler pour faire quoi ? Pour faire élaborer un programme d'activité qui a vocation sur plusieurs années à se développer, à se mettre en œuvre, etc. Donc, si vous voulez, dans l'idée d'Institut Carnot d'éducation, il y a la question de la permanence, de la pérennité, disons, du dispositif. Alors, l'appel à manifestation d'intérêt, dont je rappelle l'objectif, mais nous avons voulu définir un certain nombre de thèmes, très larges, certes, et ce sont les rectrices qui nous ont donné ces thèmes. Le premier, c'est l'école inclusive, avec la construction de parcours de qualification, bon, et avec, bien sûr, on retrouve la littératie et la numératie. Évidemment, le deuxième thème, c'est la mixité sociale et la mixité scolaire, et comment lutter contre les inégalités de réussite scolaire, qu'elles soient d'origine sociale ou d'origine géographique. Et puis, c'est l'accueil et la réussite à l'université. Bien sûr, c'est le bac moins 3, bac plus 3, mais c'est aussi donc l'avenir des bacheliers professionnels ou des bacheliers technologiques au sein de l'université. Les périmètres éducatifs, maintenant. Nous avons voulu essayer de faire système, c'est-à-dire que nous avons dit... Voilà, les périmètres pourraient être des réseaux d'éducation prioritaire, des réseaux de filières, des bassins d'éducation, des zones territoriales d'emploi et de formation, et nous avons rajouté autres. Et nous avons bien fait parce qu'il y a des projets qui sont de petite taille, mais qui sont particulièrement intéressants dans ce qui nous a été remonté. Alors maintenant, je voudrais vous décliner la manière dont nous avons mis en œuvre le schéma donc, de déroulement de l'appel à manifestation d'intérêt. Alors, dans un premier temps, première séquence, nous avons demandé des réponses du monde éducatif et des réponses du monde de la recherche séparées. La volonté était la suivante, c'est-à-dire de faire en sorte que il y a beaucoup de chercheurs qui ont des relations avec le monde éducatif. Bon. Mais il y en a d'autres qui n'en ont pas. Et donc, si on faisait un projet commun dès le départ, chercheur-enseignant, on risquait de retomber, ce qui est bien, ce qui est intéressant, mais ne tomber que sur des projets de coopération qui existaient déjà. Donc, c'est pour ça que nous avons fait cette distinction. Et sur la gauche, la réponse du monde éducatif, c'est la demande. Et sur la droite, la réponse du monde de la recherche, c'est en quelque sorte, même si ce n'est pas aussi simple que ça, on pourrait appeler l'offre. Et après... Une fois que nous avons ces projets, nous les mettons dans la structure d'interface. Et là, il y a une discussion, il y a des mises en relation, et au fond, à partir de ce travail de concertation entre les enseignants et les chercheurs, eh bien, on ressort avec un projet pédagogique qui est adossé à la recherche, et d'autre part, des projets de recherche qui tiennent compte de l'avis, de la discussion qu'il y a eu lieu avec les enseignants. Et pour faire bonne mesure... Nous avons demandé l'avis d'un conseil scientifique qui est présidé par Jean-Marc Monteil. Et puis après, il y a une décision d'un comité stratégique de suivi qui comprend la plupart des décideurs, les recteurs, les représentants des trois directions au niveau national, des présidents de sites, et qui sera présidé donc par Nicole Belloudet, qui est une ancienne rectrice, mais qui est aujourd'hui membre du conseil constitutionnel. Et les directeurs des SP, bien sûr. Merci, François, de me rappeler ça. Bon. Alors, donc... quel va être le rôle du comité stratégique de suivi ? Ce rôle va être de choisir, disons, à partir de l'avis des conseils scientifiques, de choisir les équipes pédagogiques et les équipes de recherche qui vont participer. Mais nous avons pris l'engagement auprès des rectrices que tout projet qui apparaîtrait pédagogique ne sera pas laissé au bord du chemin. C'est-à-dire que s'il n'est pas accessible, s'il n'est pas mûr à un moment donné, eh bien, vous verrez, dans le programme d'activité, il y a une mission d'amélioration des projets, de telle façon qu'ils puissent, à terme, rejoindre le réseau Carnot de l'éducation. Donc voilà le déroulement. Alors maintenant, je voudrais vous dire comment nous avons fait pour la structure d'interface, c'est-à-dire les passeurs. En l'absence d'un nombre considérable, important, disons, de personnes qui, en elles-mêmes, ont ces deux compétences, nous avons bâti une structure dans laquelle il y a des gens qui ont des compétences dans un domaine ou dans un autre, mais dont l'ensemble regroupe, si vous voulez, ces compétences de connaissance du milieu éducatif et de connaissance du milieu de la recherche. Alors, par exemple, nous avons fait ça par académie. Il y a donc 12 membres dans l'équipe de passeurs. Je prends sur Grenoble, par exemple, il y a Pascal Bressou, il y a un représentant de l'ESPE, c'est Sylviane Valdois, qui est directrice de la recherche donc à l'ESPE de l'Académie de Grenoble. Et puis, il y a deux représentants du rectorat, un doyen, Pascal Boiry, un doyen des corps des IA-IPR, et puis le CARDI. Alors, on retrouve la même disposition sur Lyon. Par exemple, sur Lyon, c'est André Robert qui représente, au fond, le milieu scientifique, l'ancien président, il y a encore quelques mois, de la section 70 du CNU. Et puis, voilà. Et on a un représentant d'ESPE qui est un directeur de la formation, c'est Jean-Luc Ubaldi. Et sur Clermont-Ferrand, nous avons également deux représentants du rectorat. Un représentant des ESPE, c'est Roland Guagou, qui, je pense, est dans la salle, mais qui n'oublie pas non plus, en étant même représentant des ESPE, sa casquette de scientifique. Et puis enfin, il y a Pascal Huguet, qui est un nouveau directeur d'un laboratoire donc, de Clermont, qui est consacré à la psychologie sociale et cognitive. Et puis, il y a une équipe projet. Et cette équipe projet, eh bien, elle est constituée d'un responsable de projet, un chef de projet qui est Réjeanne Monod-Ransaldi, dont certains sans doute parmi vous connaissent son nom, ou la connaissent directement, puisqu'elle a piloté donc l'ELEA. Et puis, il y a un secrétariat, il y a un ingénieur de recherche à mi-temps qui est mis à disposition, et puis il y a des personnes, par exemple, la cellule Europe et la cellule ingénierie de projet de l'École nationale supérieure de Lyon qui participent. Donc, en gros, l'Université de Lyon et, d'autre part, et principalement l'ENS et son département, donc l'IFE, met à disposition pendant les 4 ou 5 mois qui viennent à peu près 4 équivalents temps plein, ce qui, vous verrez, est nécessaire pour ensuite assumer le traitement de ces données et faire le job donc pour aboutir à la création de l'Institut Carnot d'éducation. Alors maintenant, nous avons les premiers résultats de l'appel à manifestation d'intérêt, puisque la date limite, c'était le 11 mars. Donc c'est tout frais. Bon. Et donc il faut évidemment, je vous donne les premières analyses, mais il faudra regarder ça de manière plus approfondie. Alors d'abord, sur la répartition par académie, il y a 114 réponses du système enseignant. Bon, c'est énorme. Bon. Il y en a donc 42 sur Clermont. Et là, Clermont a fait fort, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y en a 36 sur Lyon et il y en a 29 sur Grenoble. Mais ne vous attachez pas trop aux chiffres parce que, par exemple, sur Grenoble, il y a des réseaux qui sont assez importants, mais sur Clermont aussi, mais sur Grenoble, c'est principalement ça. Et ce qui fait que l'impact, disons, en termes académiques, en termes d'élèves, etc., est sans doute pas à l'image des nombres de projets qui apparaissent ici. Ensuite, alors j'ai oublié de préciser, il y a un projet commun sur lequel je reviendrai, qui est interacadémique et qui comprend les trois académies. Je vous dirai de quoi il s'agit par la suite. Maintenant, la répartition par périmètre éducatif. On trouve principalement des établissements avec une analyse à la louche quand on regarde les chefs de projet, les proviseurs, les principaux de collèges, etc. C'est à peu près équivalent entre les collèges et puis les lycées. Bon, on peut partager en deux. Ensuite, vous avez des réseaux d'établissements, vous avez également des projets par académie, et vous avez des réseaux même départementaux. Par exemple, dans l'Académie de Clermont, il y a trois réseaux de départements ruraux qui ont contribué, pilotés par le DAZN donc du département, qui ont proposé donc des projets. Et puis, vous voyez, il y a des réseaux communaux et il y a un projet interacadémique qui consiste à évaluer les politiques d'éducation prioritaire sur l'ensemble des 90 REP de l'ensemble donc des trois académies. Il y en a 90. Donc c'est évidemment un travail extrêmement conséquent et ce sont les trois rectorats qui pilotent donc ce projet. Voyons maintenant la répartition par niveau de formation. Évidemment, le secondaire est très important, mais le primaire n'est pas négligeable puisqu'il est à 28%. Vous avez également du primaire et du secondaire, donc des réseaux de cycles. Et vous avez également quelques projets dans le domaine du supérieur, il n'y en a pas beaucoup. Il y a aussi du secondaire et du supérieur, donc il y a quatre projets. Et il y a même un projet primaire, secondaire, supérieur qui existe dans la réponse à l'appel à manifestation d'intérêt. Maintenant, le résultat des réponses à l'AMI du point de vue des chercheurs. Donc, on a par site universitaire la répartition que vous avez là, mais il y a 76 réponses qui ont été reçues. Quand j'ai analysé cette base de données, la base de données contenait 76 projets. Je pense qu'il y en a 4 ou 5 de plus, donc on devrait être autour de 80 réponses d'équipes de chercheurs. Et parfois, avec la moyenne, c'est 4 ou 5 chercheurs par équipe. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très important qui peut mobiliser jusqu'à 200, 220 chercheurs qui se sont mobilisés dans cette affaire. Alors, avec une répartition assez équilibrée, puisque vous avez, compte tenu des forces, 22 projets sur Clermont, 33 sur Lyon et 24 sur Grenoble. Alors, quelles sont les disciplines qui ont été proposées par les chercheurs? On trouve la psychologie sociale et cognitive, donc avec une proportion qui est importante. On trouve des projets de neurosciences, 9 projets, dont 4 sont issus de l'Institut des sciences cognitives donc de Lyon et un projet issu de l'Institut des sciences de la cognition donc de Grenoble. Et puis, vous avez également les sciences du langage et de la didactique avec 12 projets, l'informatique en relation avec l'enseignement, l'apprentissage, donc là, on a 6 projets, et enfin, les sciences de l'éducation, 22 projets, et je dois dire que sur les 22, il y en a 14 qui sont issus du laboratoire de Roland Guagou. Alors maintenant, quels sont les types de laboratoires qui ont répondu? Ma première surprise a été de voir qu'il y avait un nombre d'UMR, d'une mix de recherche, important qui répondait. 32 laboratoires, dont 30 du CNRS, une de l'INSERM et une autre de l'INRA. Et puis les équipes associées, donc 43 laboratoires, et parmi elles, il y a 3 membres de l'Institut universitaire de France qui, sont porteurs de projets. Alors maintenant, nous sommes arrivés à un point crucial, c'est-à-dire que nous avons donc au fond 120 plus 80, nous avons 200 dossiers à traiter. Ça montre au moins une chose, c'est qu'il y a sans doute un besoin à la fois dans le système éducatif et dans le système, dans le monde de la recherche. Parce qu'on n'aurait pas eu ces réponses-là Donc c'est vraiment très important. À l'époque, quand on a lancé l'appel à manifestation d'intérêt, François en est témoin, j'étais assez inquiet. Bon, mon inquiétude, de ce point de vue, est supprimée. Mais j'en ai une autre, c'est-à-dire celle qui, maintenant, il faut qu'on traite, il faut qu'on fasse le job. Bon, et ça, c'est pas non plus très évident. Alors comment allons-nous procéder de manière un peu synthétique? D'abord, nous allons analyser les réponses par la nature des demandes. Par exemple, est-ce que toutes les demandes qui sont faites par les enseignants, est-ce que c'est tributaire d'une recherche, d'un travail de recherche, ou de plusieurs disciplines à mobiliser, ou bien, au contraire, est-ce que c'est de l'accompagnement qui pourrait être simplement de la formation qui pourrait apparaître, qui pourrait être demandée, mais qui pourrait être satisfaite par exemple, les délégations académiques à la formation ou la partie des SP qui travaillent sur cette question. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas, même si, imaginons qu'il y ait des projets qui soient que de la formation, ça ne veut pas dire pour autant que nous n'aurons pas des projets impliquant la recherche et la formation, parce que c'est évidemment très important. Mais il nous faudra plus de temps pour faire apparaître les besoins de recherche. Voilà, c'est ça que... Ensuite, pour chaque réponse du côté enseignant, nous allons analyser les besoins en termes de discipline scientifique et identifier les chercheurs de la base des 80 qui peuvent être concernés, les équipes de recherche. Alors, dans la structure d'interface, il y a 5 scientifiques. Bon, vous divisez 120 par 5, vous voyez, ça fait un travail conséquent, même s'il y a 2 ou 3 pages qui sont pour chaque projet. Donc, nous avons mobilisé d'autres chercheurs à côté, et c'est à peu près une trentaine de chercheurs qui vont faire ce travail-là d'analyse pour aboutir à ça. Et une fois qu'on aura ça, pour chaque réponse, nous allons organiser des réunions d'échange entre chercheurs et enseignants. Une première étape pour chacun, donc une discussion pendant 4 heures, par exemple. Alors, vous voyez, vu le nombre de 4 heures, vous multipliez ça par 100, vous voyez, ça vous fait 400 heures. Donc, à 8 heures par jour, dans le meilleur des cas, vous voyez, ça vous donne... Bon, donc, on va démultiplier les équipes d'animation. Donc, on va avoir 4 équipes d'animation qui vont permettre, justement, de faire ces échanges. Et l'objectif final, c'est donc des projets pédagogiques adossés à la recherche et des sujets de recherche en relation avec les projets pédagogiques. J'en viens maintenant à la dernière étape, c'est-à-dire là, nous avons sélectionné, donc, ou choisi plus exactement, les équipes pédagogiques et les équipes de chercheurs qui seront dans l'Institut Carnot d'éducation, et nous allons leur demander d'élaborer un programme d'activité pour le long terme. D'abord, nous allons leur demander d'établir une gouvernance, de se doter d'une gouvernance paritaire, avec à la fois des enseignants et des chercheurs, y compris au niveau de la direction de l'Institut Carnot d'éducation, avec, je répète, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, un scientifique qui sera du domaine. Et puis, qu'est-ce qu'on va leur demander? Bien sûr, la mise en œuvre des projets pédagogiques et de recherche. Une politique d'animation pour promouvoir une culture de coopération au sein et en dehors de l'Institut Carnot de l'éducation. Je prends 2 exemples. On peut imaginer, par exemple, que régulièrement, il y a des points qui soient faits sur l'avancée des projets pédagogiques adossés donc, à la recherche, en présence des chercheurs, en présence des autres enseignants, et que là, s'il y a des problèmes, on peut avoir effectivement une modification, une intervention à nouveau des chercheurs sur le projet pédagogique en termes d'évolution. Mais on va faire la même chose pour les chercheurs, c'est-à-dire leur demander, par exemple, d'exposer leurs travaux de recherche, leurs travaux de thèse, par exemple, et de faire en sorte que peut-être il puisse y avoir, au fond, au travers de ça, un certain nombre d'objets de recherche qui soient éclairés par des disciplines différentes. Bon. Et que peut-être, avec des nouvelles générations, on puisse faire travailler sereinement des chercheurs de disciplines différentes. Ensuite, politique de diffusion avec les ESPE. Formation initiale continue avec le rectorat. Alors, nous avons mis en place, au sein de la structure d'interface, un groupe qui va avoir en charge d'analyser les travaux prévus et en cours de fonctionnement donc, du réseau IC, pour voir comment ces travaux peuvent être ensuite intégrés dans la formation initiale et dans la formation continue et dans la formation continuée. Nous allons demander également une politique d'extension du réseau. Par exemple, les projets qui n'ont pas été retenus, comment on peut les améliorer pour qu'ils rejoignent le réseau. Mais pas que ça. On peut imaginer que le réseau, une fois constitué, peut développer des appels à manifestation d'intérêt. On va leur demander de développer une politique de coopération internationale. Bon, alors, par exemple, pour les chercheurs, c'est classique. Pour l'innovation pédagogique, ça l'est un peu moins, sans doute. Et donc là, le benchmark international nous servira pour voir quels sont les sites à partir duquel il pourrait y avoir une coopération dans ce domaine. Et puis, nous allons leur demander des critères d'auto-évaluation. Enfin, des moyens attendus, et ça renvoie sur le modèle économique, qui est un problème majeur si on veut que les instituts Carnot d'éducation puissent fonctionner. Alors, je vais revenir sur le modèle économique, mais avant cette diapo, pour vous montrer le budget pour l'expérimentation dont nous disposons. Nous avons disposé de 200 000 euros de la part de la DGCIP, qui est gérée par l'UDL, en convention donc avec l'ENS. Nous avons prévu de faire 3 post-docs, une aide évidemment très importante pour la création de lycée et de son programme d'activité. Et aussi, nous avons prévu un peu de fonctionnement pour les activités de recherche, au moins au départ du fonctionnement de lycée, pour qu'il puisse fonctionner et attendre, disons, des ressources supplémentaires. Et puis, nous avons négocié avec les universités. Il y a donc 6 contrats doctoraux, 2 par site, qui vont être mis à disposition, qui vont être fléchés sur la politique donc, de l'IFE. Il y a l'apport des rectorats, qui est en cours de discussion. Et puis, il y a l'apport important de l'IFE-ENS, donc, nous apporte quelque chose, vraiment, un appui logistique et scientifique très important. Et puis, il y a l'apport éventuel des collectivités locales avec lesquelles je vais rentrer en contact. Alors maintenant, le modèle économique. Dans les Carnot traditionnels, ce sont les entreprises qui financent. Bon, on n'a pas osé demander aux collèges et aux lycées de financer. Bon, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc il faut bien trouver des ressources extérieures. Et la première, c'est évidemment le pays à trois. Bon, je ne sais pas s'il y aura des... Alors, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y aura de la formation dans le pays à trois. Est-ce qu'il y aura des appels à projets auxquels les IC pourront répondre? Ça, c'est une question ouverte. Bon, mais on l'espère. Et à ce moment-là, ça permettrait évidemment de démarrer sur 3 ou 4 années avec le temps que le dispositif se mette en place. Il y a l'Europe et l'étude de toutes les possibilités, à la fois les programmes européens, mais aussi les programmes qui sont financés par les régions. Je pense, par exemple, au FEDER ou je pense encore au FSE. Il y a les collectivités locales. Vous avez pu voir qu'il y a des réseaux départementaux, il y a des réseaux de villes, d'agglomérations, et des réseaux au niveau régional. On peut imaginer que les collectivités sensibles à ces questions-là puissent financer un certain nombre de choses. Par exemple, des bourses chiffres qui sont possibles. Bon. Alors, c'est les appels à projets de l'État. On peut penser, par exemple, à l'ENR ou à d'autres. C'est la NRT, donc je viens d'évoquer les bourses chiffres. J'ai rencontré la directrice des bourses chiffres à l'ENRT. Elle m'a dit 2 choses. Elle m'a dit, 1, il n'y a pas assez de thèses de bourses chiffres dans le domaine des sciences humaines et sociales, et notamment dans le domaine des sciences de l'éducation. Et deuxièmement, il faut penser aux villes. Il faut penser aux villes, aux collectivités, etc., parce que là, il y a sans doute une possibilité. Donc on va essayer d'explorer cette voie. Et puis, il y a les ministères, bien sûr, et puis il y a les entreprises. J'ai eu la surprise de voir qu'il y a un pôle de compétitivité qui s'appelle Imaginov, qui est un pôle de compétitivité donc sur Lyon, Grenoble, enfin, sur la région anciennement Rhône-Alpes, et qui voulait vraiment rentrer dans l'Institut Carnot d'éducation. Et alors, c'est un pôle de compétitivité où les entreprises qui traitent des images, qui ont des logiciels, etc. Donc, ils ont fait une contribution et on va les associer et on va voir comment, au cours du développement des projets pédagogiques, s'il n'y a pas des choses intéressantes qui pourraient être traitées par les entreprises et qui pourraient, à ce moment-là, donc, bénéficier directement de bourses CIF. Enfin, il y a le mécénat, évidemment. Donc, en gros, toutes ces pistes vont être explorées par la mission. Et au mois de juin, je me suis engagé à fournir une note synthétique sur les différentes sources de financement à disposition de la gouvernance du projet d'Institut Carnot d'éducation. J'en viens pour terminer aux modalités d'extension au niveau national. Nous nous posons plusieurs questions. La première, c'est celle du périmètre géographique. Car vous avez bien vu que sur la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une masse critique très importante de recherche sur l'éducation, sur Lyon, sur Clermont et sur Grenoble. Bon, à la fois en quantité, en qualité et en diversité d'efforts scientifiques. Il y a aussi une envie d'innovation. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir, au fond, quel est le périmètre idéal en France où pourraient s'installer des instituts Carnot d'éducation. Et de point de vue de l'effort scientifique, l'enquête qui a été lancée donc, par la DGCIP et dont Marie-Claude Panlou vous a parlé donc, hier avec Claude Fabre, eh bien, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça va nous être très utile. Nous pourrons voir exactement comment il en est, etc. Et puis, sans doute, il y a des régions où il n'y aura pas de masse critique suffisante. Et là, nous sommes en train d'étudier une plateforme numérique qui permet d'avoir accès à toutes les données de la recherche avec une double entrée, une entrée discipline et une entrée, disons, par les chercheurs. Alors, il y a déjà des choses qui existent. À l'IFE, par exemple, il y a une entrée par chercheur. Le réseau Athéna a une entrée plutôt par... l'Alliance Athéna a une entrée plutôt par les disciplines. Et donc, on va essayer de voir avec les uns et les autres comment on pourrait rassembler ça dans une plateforme. Et nous avons mis un stagiaire de master sur cette question pour l'étudier. Le deuxième aspect que je voudrais souligner dans le cas de l'extension, c'est les conditions à remplir donc, pour cette extension. La première, très importante, c'est la volonté des acteurs à s'engager. les recteurs, mais aussi et peut-être avant tout les cadres académiques. Bon. Et pour ça, François m'a beaucoup aidé dans cette affaire, parce qu'un jour, il m'a dit, si on veut faire un lycée sans penser au cadre académique, c'est foutu. Bon, il avait bien raison. Et puis, bien sûr, les enseignants, qui sont les principales bénéficiaires. C'est aussi le cas des universités, des laboratoires, des chercheurs. Ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est qu'au vu de l'expérimentation qui est en cours sur Rhône-Alpes Auvergne, là, cette volonté, elle s'est manifestée par les réponses à appel à projet. Mais faut-il encore vérifier, si vous voulez, si on peut encore améliorer les choses, etc. Et puis, il y a la question d'un opérateur d'appui national pour aider à la mise en place et assurer le suivi. Au fond, quand on regarde ce qu'ils nous avons fait ici en Rhône-Alpes Auvergne, il est absolument indispensable d'avoir de l'ingénierie de projet qui soit mise à disposition des porteurs de projets là où ils voudront mettre en place des instituts Carnot d'éducation, y compris pour répondre à des appels à projets du PIA3, par exemple. Bon. Et puis, c'est la création d'équipes de passeurs. Et là, c'est sans doute des nouveaux métiers à promouvoir, au moins des nouvelles fonctions. Et là, on pourra en discuter si vous le souhaitez. On a quelques pistes qu'on va essayer de tester, d'ailleurs, au cours de l'expérimentation. Enfin, il faudra aussi un conseil scientifique, un comité stratégique de suivi au niveau national et pourquoi pas avec un label Institut Carnot de l'éducation. Enfin, il y a la question du modèle économique. Et puis, nous pensons qu'il serait utile pour mutualiser les expériences, pour animer, etc., d'avoir un réseau national autour des ICE, comme il y a des ICE, comme il y a dans le cas des instituts Carnot traditionnels. La conclusion, c'est deux communautés à mobiliser. Et c'est le pari que ces deux communautés vont travailler ensemble. Si ça réussit, c'est un levier pour l'affirmation de la place de la recherche dans le métier d'enseignant. Mais c'est aussi une exigence de qualité du pilote d'Institut Carnot d'éducation que nous sommes en train de bâtir par rapport aux critères du CGI, dans une perspective d'extension de réponse à l'appel à projet. Car, en effet, l'exigence de qualité est très forte. Et c'est la raison principale pour laquelle nous avons ces deux structures, qui sont une structure qui s'appelle le Conseil scientifique et, d'autre part, le Comité stratégique de suivi, qui, à partir des avis du Conseil scientifique, va prendre un certain nombre de décisions. Enfin, il y a évidemment un enjeu national comme prélude à une extension nationale des ICE. Vous avez là l'adresse à laquelle vous pouvez demander des renseignements. Vous tomberez sur Réjeanne Monod-Ansaldi qui vous donnera tous les renseignements que vous souhaitez avoir sur ce Carnot de l'éducation. Donc moi, j'en ai terminé et je vais passer la parole maintenant à François, mon compère, qui va vous donner, au fond, des enjeux en matière, tu le dirais mieux que moi, mais je vais t'introduire, des enjeux du point de vue des ESPE, mais au-delà de ça, du point de vue du système éducatif dans son ensemble.